On va se tourner ensemble dans la lettre de Paul à Timothée, si vous le voulez bien. On va remettre cette étude au Seigneur. Seigneur, nous allons voir l'importance que tu places, que tu donnes à la prière, Seigneur, dans nos vies, dans la vie de l'Église. Et c'est avec joie, Seigneur, que nous voulons te remettre cette étude, sachant que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir accompli son effet, Seigneur. Merci parce que ta parole est vivante, elle parle à nos cœurs, elle nous reprend, elle nous instruit, elle nous éduque, elle nous enseigne, elle nous prépare à toute bonne œuvre en toi, Seigneur, comme nous le verrons dans 2 Timothée 3,16. Merci parce qu'elle est inspirée par ton Esprit Saint, elle a été inspirée et ton Esprit Saint nous la restitue, Seigneur. C'est lui qui va la prendre ses vérités pour interpeller nos cœurs, Seigneur, nous transformer. Et Seigneur, je te demande vraiment d'agir en nous collectivement aujourd'hui, de parler à chacun, mais aussi de parler à l'Église, au sujet de la prière. Dans le nom de Jésus, nous prions. Amen. Je vous rappelle qu'il y a un verset dans cette lettre qui explique un peu le pourquoi de la lettre, et c'est toujours important de savoir pourquoi vous recevez un courrier. Je ne sais pas si vous avez des fois reçu des lettres ou des mails, et vous ne savez pas de où veut en venir la personne, ou pourquoi on vous envoie ce courrier, on vous donne des informations, mais ce n'est pas clair. C'est toujours important de préciser l'objet de votre lettre. On vous conseille même de le faire avant d'aborder la lettre. Quand vous faites une lettre officielle, vous indiquez le destinataire, vous indiquez aussi à la fin ou au début l'expéditeur, mais vous indiquez l'objet de la lettre, savoir pourquoi vous l'avez écrite, pourquoi elle est importante, pourquoi c'est... Si c'est le troisième rappel d'un huissier, vous allez y prêter plus d'attention que si c'est une carte postale de quelqu'un qui vous a envoyé la carte postale du Chili et qui est déjà rentré de vacances depuis 2 semaines et que vous avez vu. Là, Paul nous dit, cette lettre, je l'écris verset 15 du chapitre 3 pour que tu saches comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. On a dit que c'était une des épîtres pastorales parce qu'elle est écrite par Paul à un jeune pasteur, Timothée, comme il en écrira une autre au jeune pasteur qui s'appelait Tite. Et il veut nous instruire à travers les instructions qu'il donne à Timothée pour savoir comment on fait l'Église. L'Église, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on y fait, l'Église? Est-ce qu'on se retrouve là pour chanter, pour s'asseoir pendant un moment pendant que quelqu'un parle, pour boire du café et repartir pour toute la semaine? Ou quel est le sens, quelle est la raison d'être? Il l'a dit de façon négative, il a dit d'abord dans le premier chapitre, veille à ce qu'on n'enseigne pas de fausses doctrines. Non à la fausse doctrine, la doctrine qui n'est pas basée sur la parole de Dieu. On pourrait penser que c'est inconcevable, et pourtant c'est ce qui se passe dans la majorité des églises, même en France, même dans des églises qui se disent chrétiennes, protestantes ou évangéliques. Souvent la parole n'est qu'un prétexte pour faire de la philosophie, pour faire du... prêcher les bonnes œuvres, prêcher le salut par être gentil. Et il est très ferme là-dessus. Ne transige pas, enseigne la parole, enseigne toute la parole. Il va y revenir. Et puis au chapitre 2, il aborde un passage, parce qu'il nous a fait remarquer qu'en fait, il se passait un combat. Il l'appelle le bon combat. C'est le combat spirituel. Au verset 18 du chapitre 1, c'est le combat spirituel. On n'aime pas trop parler de ça parce que c'est un peu inquiétant. On aimerait bien qu'on nous dise, vous en faites pas, tout est... La vie chrétienne, c'est une partie de plaisir, c'est un voyage au Club Med spirituel. Tout est donné, tout est facile. Mais non, c'est un combat. Il y a une réalité spirituelle, il y a des êtres spirituels, des anges démoniaques qui s'attaquent à nous. Il se passe un grand combat spirituel que la Bible montre parfois, lève un peu le voile sur ce combat qu'on ne voit pas, qu'on a du mal à imaginer parfois. Sauf quand on fait la connexion des fois avec les épreuves que l'on vit, et qui s'intensifie souvent lorsque l'on essaye de servir le Seigneur, lorsqu'on veut le glorifier, lorsqu'on veut avancer l'Évangile en partageant sa foi, on s'aperçoit qu'il y a des choses terribles qui peuvent arriver. Et il nous dit au chapitre 2, « Je vous exhorte donc, en tout premier lieu, à prier. » Lisons ensemble les versets 1 à 8 du chapitre 2. J'exhorte donc, en tout premier lieu, à faire des requêtes, prières, intercessions, actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et dignité. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu, et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous. C'est le témoignage rendu en temps voulu pour lequel j'ai été moi-même établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, docteur des païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni contestation. Et on va lire juste le début du verset 9, de même aussi que les femmes. Encore une fois, les versets, les chapitres, les numéros de versets, c'est pas inspiré par le Saint-Esprit, c'est les hommes qui ont établi ces repères pour pouvoir parler des passages qu'il y a dans la Bible. Et des fois, les séparations ne sont pas nécessairement justes ou bien faites, dans le sens où l'idée peut être un peu interrompu par une séparation en versets, et aussi, en plus, si dans votre Bible il y a des gros titres ajoutés par les rédacteurs de la version que vous lisez. Mais la prière, elle s'adresse à tous. Ou plutôt, la nécessité de prier, c'est pour nous tous. Il a parlé de la doctrine, de l'enseignement de la doctrine correcte, plutôt d'une façon négative, dans le sens où il a dit surtout, veillez qu'il n'y ait pas de faux enseignements qui circulent dans l'Église. Mais en tout premier lieu, qu'est-ce qu'on doit faire dans l'Église ? On doit faire des requêtes, des prières, des intercessions, des actions de grâce pour tous les hommes. Jésus a repris les versets bibliques, ma maison sera une maison de prière. Alors, Paul utilise plusieurs. Donc, il nous invite fortement. C'est avec exhorter, c'est nous encourager avec force, de façon urgente. C'est pas une option. En tout premier lieu, vous devez prier. Alors nous devons prier individuellement, Nous devons prier, là c'est pour ce qui, comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, il faut prier ensemble. Il y a une place très importante pour la prière collective. C'est la première chose dont il veut parler, après avoir parlé de la fausse doctrine qui est à éviter à tout prix, parce que la fausse doctrine va vous dire « c'est pas important de prier », par exemple. Mais, avant même l'enseignement, il dit « prier ». Alors j'ai dit, il utilise plusieurs mots, et on peut prendre ces termes en disant, bon, voilà, alors il faut faire un quart d'heure de requête, un quart d'heure de prière, un quart d'heure d'intercession, un quart d'heure d'action de grâce, et on aura rempli l'heure avec les quatre éléments, les quatre ingrédients, et donc on aura une bonne prière. Je crois que c'est plus l'idée de prier dans tous les aspects de la prière qui soit possible, suivant les besoins, suivant la façon dont le Saint-Esprit vous guide à un moment. Alors, on peut regarder un peu les différents mots qui sont utilisés. Le mot de requête, c'est le mot qui vient du verbe qui veut dire avoir besoin. C'est prier pour nos besoins, pour les besoins vitaux, pour les besoins importants, et même pour les besoins de croissance, les besoins de pureté, les besoins, tout ce qui représente quelque chose que vous n'avez pas, vous pouvez prier pour cela. C'est le mot requête. En anglais, on dit des supplications. On implore Dieu. Des prières, c'est le terme le plus général. Mais le premier mot, la requête, peut être adressée à des hommes. On peut aller à la sécurité sociale pour demander des revenus supplémentaires parce qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Mais la prière, c'est toujours à Dieu qu'elle s'adresse. C'est toujours un aspect d'adoration, de reconnaissance que Dieu est Dieu et moi je suis qu'une créature, un homme ou une femme. Les intercessions, souvent on dit c'est prier pour quelqu'un d'autre, et c'est vrai que ça peut être un des aspects, mais le mot veut dire s'approcher de quelqu'un afin de pouvoir lui parler de façon familière. C'est l'idée un peu d'avoir un libre accès à Dieu, un peu comme un enfant vient avec confiance demander des choses à son papa, à sa maman. Et c'est vrai que c'est important de ne pas seulement prier pour nos besoins, mais de profiter de notre intimité pour dire « Seigneur, si tu pouvais aider un tel ou une telle, ce serait formidable, j'en serais très reconnaissant. » Et le dernier aspect de la prière, c'est les actions de grâce, justement remerciement. Remercier Dieu pour tout ce qu'il fait. Je ne sais plus, il y a quelques temps, quelques jours, on parlait avec quelqu'un où on priait, on se disait c'est formidable de remercier Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous, que l'on sait, ce que l'on voit, ce que l'on sait. Mais ce sera encore plus important, par la foi des fois, de remercier Dieu pour tout ce que nous ne voyons pas, qu'il fait pour nous-mêmes. Peut-être c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait. Remerciez Dieu pour les choses qu'il fait que vous ne voyez pas. Parce qu'il en fait. Il y a des anges qui sont là pour des agents de Dieu qui peuvent être là pour vous protéger, pour vous éviter tel ou tel péché, telle ou telle mauvaise voie. Et c'est important d'avoir cette confiance que Dieu est là et qu'il fait plein de choses que vous ne voyez pas pour vous. Et ces prières, elles doivent être faites pour tous les hommes. Bien sûr, c'est le terme générique qui veut dire aussi bien les hommes que les femmes. Pas seulement pour vos amis chrétiens. Pas seulement pour les chrétiens dans le monde, pas seulement pour les chrétiens persécutés, même si dans Hébreu il est question d'être avec les prisonniers, de prier pour ceux qui sont persécutés, mais pour tous les hommes et toutes les femmes. tous autant que nous sommes. Nous sommes des merveilles. Amen, sister. Abigail est une petite merveille. Peut-être vous vous sentez plus comme une merveille. Vous avez pris de l'âge, du poids, vous êtes moins en forme qu'avant. Vous dites, oh, j'étais une merveille. J'étais beau, j'étais belle. Non, vous restez tous des choses merveilleuses. Et vous pouvez remercier Dieu pour tous les hommes, même ceux qui vous font du mal. Jésus a dit, priez pour vos ennemis. Ça, c'est genre de... On est d'accord, mais est-ce qu'on le fait vraiment? Pour tous les hommes, ça fait bien sûr penser aux hommes qu'on connaît. Et puis, il ajoute, pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure, pour les chefs, pour les présidents, pour Sarkozy, pour Estrosi, pour tous les îles de la Terre. On n'a pas besoin de faire de blagues parce que ça, c'est sérieux. Et justement, il faut qu'on arrête de faire des plaisanteries sur les hommes politiques, les critiquer. Si on passait plus de temps à prier pour nos dirigeants qu'on ne passe de temps à les critiquer, à chercher à trouver des ragots sur leur compte, peut-être que les choses iraient beaucoup mieux. Mais c'est plus facile de se moquer, de voir les guignols de l'info, d'écouter Nicolas Canteloup sur la revue de Presque, etc., et Laurent Gérard. Ils sont très drôles, mais ça nous donne un esprit critique négatif qui n'a rien à faire dans la Bible. Prions pour nos leaders, nos responsables politiques. Quelle est la dernière fois où vous avez prié pour Nicolas Sarkozy? Je vois des sourires parce que ça paraît tellement invraisemblable. La Bible nous le dit. On se dit chrétien, alléluia, hein, mais Sarkozy, pas question, qui crève. Prions pour les rois et pour tous ceux qui occupent une position supérieure. Est-ce que vous avez prié pour l'ex-dirigeant du FMI, DSK? Ah non! C'est un macho, il va prendre ce qu'il mérite. Peut-être que vous n'avez jamais prié pour lui, mais par l'intermédiaire d'amis communs, des amis de la charity qui est venue déjà ici, qui a chanté, que certains d'entre vous connaissent. Ses parents sont en contact avec des gens qui habitent Washington, la capitale fédérale des États-Unis, des amis chrétiens et qui ont à cœur de prier pour les dirigeants politiques américains et ceux de la planète. Et Nancy a vu une de ces personnes. Ils font des réceptions où ils parlent de l'évangile avec des hommes politiques, des hommes de haut rang. Et il y a 3 ans, la dame lui avait dit, tiens, on a reçu des gens de France. C'était une journaliste, Anne Sinclair et son mari, je me rappelle plus de son nom. Et donc, ces chrétiens prient pour eux depuis 4 ans. Honte à nous. J'ai jamais prié pour Strauss-Kahn. Peut-être que si on avait prié, il n'en serait pas où il en est. Ou peut-être même, mieux encore, sa situation présente, c'est le résultat des prières de ces gens. Il y a un célèbre précédent, Charles Colson, qui était le conseiller du président Nixon pendant l'affaire Watergate. C'était un homme qui s'occupait des sales manœuvres. C'est lui qui avait autorisé les plombiers du Watergate à aller travailler, à aller piller les archives, etc. Il s'est retrouvé en prison. Il a été condamné parce que ce qu'il faisait était illégal. Et en prison, il est devenu chrétien. Et c'est maintenant, depuis il a fait son temps en prison, il a créé une association, un mouvement qui s'appelle la Communauté des prisonniers, Prison Fellowship. C'est une des grandes voix maintenant des évangéliques aux États-Unis. C'est quelqu'un qui a été utilisé puissamment par Dieu. Pourquoi ? Parce que des gens ont prié pour lui. Les mêmes groupes qui priaient pour Strauss-Kahn ont prié pour Chuck Colson. Et peut-être que cette descente aux enfers, c'est un appel à la repentance pour montrer à cet homme que la puissance de l'homme, elle vaut zilch, elle vaut rien du tout. Et on est tous quelque part fascinés par cette chute aux enfers. Il se lève le matin, il est le roi du monde, il est une des personnes les plus influentes de la planète au niveau des finances. Il se retrouve avec les SDF qui font du trafic de drogue en prison le soir même. Et je crois que c'est important de voir les événements du monde qui nous entourent à la lumière de la parole de Dieu. Et donc nous devons prier même pour nos ennemis politiques. Si vous êtes socialiste, vous devez prier pour le président qui n'est pas socialiste. Et si vous êtes de l'UMP, vous devez prier s'il y a demain un président socialiste. Peu importe la personne, vous devez prier au moins pour la fonction et voyons pourquoi il faut prier. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité. Des fois on se dit... On ne veut pas d'une vie tranquille. Ce qu'il nous faut pour que l'évangile avance, c'est une bonne persécution. On a vu, ça marche bien en Chine. L'Église a été persécutée et maintenant ils sont des millions à venir à la foi au Christ. Vous vous souvenez de notre message sur le Dieu des collines ou le Dieu des montagnes et qui n'était pas le Dieu de la vallée? Les ennemis des Juifs pensaient que s'ils allaient se battre dans la vallée, là ils allaient se faire battre parce que Dieu n'était que le Dieu des collines. Et on avait rappelé à cette occasion que Dieu agit comme il veut, quand il veut, où il veut, la façon dont il veut. Il peut utiliser la persécution, il peut utiliser la vie paisible et digne et tranquille. Et s'il avait à choisir, il préférait nous donner une vie paisible, tranquille. Paisible, on a la paix des agressions extérieures. Une vie tranquille, ça veut dire qu'il n'y a pas de dispute, il n'y a pas de division à l'intérieur de l'Église, avec un grand E. En toute piété, c'est un mot vieilli, la piété c'est ce qui plaît à Dieu. C'est la façon d'être, de vivre qui plaît à Dieu. Et avec dignité. Et la parole, le Saint-Esprit nous dit que si nous prions pour nos dirigeants, nous pouvons espérer avoir cette réponse. Nous jouissons encore en France d'une relative liberté. On peut aller dans la rue. Si on a des roulettes sous le stand, on n'occupe pas l'espace public. Si on n'en a pas, on dit qu'on en mettra. On peut se réunir librement, on peut créer des associations de loi 1905, cultuelles, pour célébrer un culte à Dieu. Continuons de prier que ce soit le cas. La parole nous dit... que un temps viendra où la nuit arrive et on ne pourra plus avoir cette liberté. Et à ce moment-là, peut-être qu'on se réjouira de la persécution, mais pour l'instant, ne cherchons pas à insulter le gouvernement pour qu'il nous persécute. Soyons respectueux des autorités. Romains 13, pour ceux qui ont fait l'étude, nous expliquait que nous devons payer nos impôts. Oh, on sait que c'est mal utilisé, il y a des gaspillages. Romains 13, verset 1, que toute personne soit soumise aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Les gouvernants ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas craindre l'autorité ? Fais le bien et tu auras son approbation, car elle est au service de Dieu pour ton bien. Mais si tu veux, fais le mal, sois dans la crainte, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, étant au service de Dieu pour montrer sa vengeance et sa colère à celui qui pratique le mal. Il est donc nécessaire d'être soumis non seulement à cause de cette colère, mais encore par motif de conscience. C'est aussi pour cela que vous payez les impôts, car ceux qui gouvernent sont au service de Dieu pour cette fonction précise. Rendez à chacun ce qui lui est dit, la taxe à qui vous devez la taxe, l'impôt à qui vous devez l'impôt, la crainte à qui vous devez la crainte, l'honneur à qui vous devez l'honneur. Les autorités ont été instituées par Dieu. S'il n'y avait pas de gouvernement, s'il n'y avait pas de mauvais dirigeants, s'il n'y avait pas de dirigeants du tout, ce serait l'anarchie, ce serait la loi de la jungle. Alors vous dites peut-être, ouais, c'est bien beau Paul, mais tu n'as pas vu la corruption aujourd'hui. Tu parles de DSK, regarde, attends, on va voir ce qui va sortir de ces enquêtes et de ces procès. Ne préjugeons pas. Mais rappelons-nous qu'à l'époque, l'autorité supérieure, c'était l'empereur Néron. Néron, un des pires dirigeants de l'histoire de l'humanité, moralement, sexuellement, physiquement, il a fait mourir il a torturé les chrétiens, il les utilisait comme des torches vivantes, il attaquait les, il a mis le feu à la ville de Rome, et après il a accusé les chrétiens, et il les recouvrait d'enduits, de poids, de bitume, et il les mettait en feu, et il éclairait ses garden parties en soirée avec ses torches vivantes. Sa mère se prostituait ou allait chercher des relations sexuelles dans les bas-fonds de la ville. C'était probablement ce qu'on a connu de pire dans l'histoire de la politique et l'histoire de l'humanité. Et pourtant, Paul dit, priez pour les autorités supérieures, pour les rois et tous ceux qui occupent une position supérieure. Domaine politique, mais aussi pour vos patrons. On les critique, les patrons, une fois qu'on travaille pour eux. Mais avant qu'ils nous embauchent, on est là. Oh, j'ai besoin d'un travail. Ah, si seulement je pouvais. Oh oui, il me fait vendre des trucs qui valent rien. Et combien de fois on a eu des réunions de prière pour que les gens trouvent du travail. Puis merveille, le Seigneur répond, ils sont embauchés. Et on les revoit la semaine d'après et ils prient pour trouver un autre travail. Le patron est moche, le patron est bête, il les fait travailler sans les rémunérer. Est-ce que vous priez pour ceux qui sont en opposition de supériorité, que ce soit dans le travail et dans la politique, pour mener une vie paisible et tranquille en toute piété et dignité? Et la raison essentielle, elle vient au verset 3 et 4. Dieu veut qu'on prie pour tous les hommes, y compris les politiques tous pourris. Pourquoi? Parce que il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Le sujet de prière principal, c'est de prier pour le miracle principal de la conversion des âmes. Prions pour que DSK rencontre le Seigneur dans ces conditions. Pas parce que à ce moment-là il fera un meilleur candidat, mais parce qu'il a besoin que son âme soit sauvée. Nous sommes tous des pécheurs destinés à l'enfer. Et ça, on a trop tendance à l'oublier parce qu'on voit les choses avec notre vision humaine et on se dit, mais il roule en Porsche, il a des appartements de partout, je vais pas prier pour lui, il a tout ce qu'il faut. Donc s'il n'a pas le salut en Jésus-Christ, il est le plus pauvre des hommes. Quand on regarde l'histoire de l'Église, on est sidéré de voir les débats qu'il y a pu avoir sur le salut, la grâce, notamment lorsqu'on étudie la littérature française, qu'on parle de Pascal, qu'on parle des jansénistes, qu'on parle de... C'était des gens qui ont découpé les choses en quatre et qui disaient qu'en fait la grâce, elle marchait seulement pour les gens qui étaient appelés à l'avance. Donc il y avait des gens pour qui Dieu allait les sauver et Dieu n'allait pas sauver les autres et la grâce, ça marchait que pour les uns, ça marchait pas pour les autres. C'était pas la peine de prier pour ceux qui n'étaient pas destinés à la grâce. Et on a envie de, un gosse pourrait leur dire, attendez, qu'est-ce que veut dire le mot tout en grec? Ça veut dire tous. Tous les hommes, toutes les femmes, Dieu veut. Alors on dit, oui, mais si Dieu veut et que ça marche pas, c'est bien la preuve que Dieu n'est pas puissant. Une meilleure traduction, ce serait Dieu souhaite que tous les hommes, il n'a pas de préjugés contre les musulmans, contre les athées, contre ceux qui se moquent de lui, contre ceux qui ont des idoles en bois, contre eux. Il aime tous les hommes. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde, toute la population du monde, tous les êtres merveilleux qu'il crée, qu'il a créé, qu'il va créer. Il veut qu'il soit sauvé. Il veut qu'il parvienne à la connaissance de la vérité. Ça, c'est merveilleux de réaliser qu'en fait, quand on cherche la vérité, c'est aussi une promesse qu'on trouve dans Jérémie 29, 13, 29, 14. « Si vous me cherchez de tout votre cœur, Dieu va se laisser trouver, » dit-il. Et c'est la vérité. La connaissance de la vérité, c'est le salut. Savoir qu'il y a un Dieu qui nous aime, qui nous a créés, qui est venu en la personne de son Fils nous racheter. C'est ce qu'il dit tout de suite après. Il y a un seul Dieu en trois personnes. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes, le Christ Jésus, homme. Le médiateur, c'est pas la Vierge Marie. Le médiateur, ce ne sont pas les, entre guillemets, saints de l'Église catholique. Le médiateur, ce n'est pas le pape. Il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Job, lorsqu'il a tellement souffert sur terre, on sait que c'était en fait Dieu qui laissait le diable agir dans la vie de Job parce que Dieu se vantait de la foi, de l'intégrité de Job. Et Satan lui avait dit, oui, c'est facile, c'est parce que tu lui bénis qu'il t'aime, mais si tu cesses de l'aimer, tu verras qu'il te maudira. Et donc, Dieu a laissé Satan agir dans la vie de Job, pas pour le détruire, mais pour montrer à Satan qu'en fait Job était un homme qui aimait vraiment Dieu. Mais à un moment, il n'en pouvait plus. Et au verset 33 du chapitre 9 de Job, vous pouvez le noter, Job 9, 33. Il soupire, il se dit, si seulement il y avait entre nous, entre moi, entre nous les hommes et Dieu, un arbitre qui pose sa main sur nous deux, pour qu'il écarte son bâton de dessus de moi, que sa terreur ne me trouble pas, alors je parlerai, je ne le craindrai pas. Il aspirait à cet arbitre, à ce médiateur qui peut à la fois mettre une main sur Dieu et une main sur l'homme. Et la Bible nous explique, ici même de façon la plus concise, que cet intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est cette personne qui est à la fois Dieu et qui est à la fois homme, c'est l'homme Christ Jésus, le Messie. On dit des fois que c'est un peu étroit d'esprit. Vous les chrétiens, vous êtes intolérants. Un seul moyen. Bon, c'est pas nous qui le disons. Paul le dit ici. Jésus l'a dit quand il a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Pierre disait « Il n'est pas donné d'autre nom parmi les hommes » sous les cieux, par lequel nous devions être sauvés que celui de Jésus-Christ. Et je dis à mes amis musulmans, à mes amis bouddhistes, à mes amis shintoïstes, ou quoi que soit leur foi, j'aimerais bien vous dire que vous pouvez y arriver par Mahomet, j'aimerais bien vous dire que vous pouvez y arriver en contemplant votre nombril et en faisant des bruits bizarres, par Bouddha. Mais désolé, la Bible, est-ce qu'elle est la vérité? Je le crois. Il y a toutes des raisons de le croire, notamment les prophéties. La Bible dit qu'il n'y a pas d'autre chemin. Vous pouvez essayer d'autres chemins, mais vous êtes garanti par Dieu. Dieu vous garantit que vous n'y arriverez pas. Et ça, c'est un signe des cultes. Un signe, c'est qui est souvent... Dieu n'est pas la seule façon d'arriver à Dieu. Je veux dire, Jésus-Christ n'est pas la seule façon d'arriver à Dieu. Il n'y a qu'un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et cet homme, qui est aussi Dieu, il s'est donné lui-même en rançon pour tous. La rançon, c'est le prix qu'on paye pour être libéré. En ce moment, on parle dans les nouvelles des otages. Par Acme, qui ont de l'acné, par les groupes terroristes. Et ils demandent une rançon. Ils veulent pouvoir acheter des armes, ils peuvent pouvoir multiplier leur influence en recevant des fonds. Donc ils prennent des otages et après, pour les libérer, ils demandent des sommes énormes. Dieu a payé pour nous racheter la plus grande des rançons, son propre fils Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même. On ne lui a pas pris sa vie. Ce n'est pas les Juifs qui l'ont condamné, ce n'est pas les Romains, c'est mon péché, mais c'est surtout Jésus qui s'est donné lui-même. Il l'a dit, « Nul ne me prend la vie, c'est moi qui la donne. » Mais c'était le seul chemin, la seule façon de nous permettre de connaître le salut. Et Paul dit qu'il est en fait, il s'est donné lui-même en rançon pour tous, c'est le témoignage rendu en temps voulu. Dieu a témoigné de son amour en ce qu'il nous a aimés le premier et en envoyant son Fils mourir pour nous. Je sais que quand on est chrétien, qu'on a entendu ces messages, on est un peu blasé. J'expliquais avec une sœur il n'y a pas longtemps que si on savait que on les a pas créés, mais on est beaucoup plus grand qu'elles, on voit des petites fourmis et on les voit qui vont marcher dans la poudre blanche que la maîtresse de maison ou la ma patronne a mis dans le, à la, sur le seuil de la porte pour faire une barrière. On les voit qui marchent dans la poudre et qui ressortent de l'autre côté, toutes couvertes de poudre, et puis qui commencent à agir un peu de façon bizarre, saccadée, avant de s'effondrer. Et on leur dit « Attention, petite fourmi, ne venez pas là. Restez dehors, restez dans le jardin, ne rentrez pas dans la maison. » Et on les voit qui n'écoutent pas. On pourrait peut-être leur faire des petites cartes écrites en fourmi. Attention, ne pas passer dans la poudre blanche. Et à la fin, on dit, mais on n'y arrivera pas. Il faut que moi-même, je devienne une fourmi pour aller leur parler. C'est ce que Dieu a fait. Il est venu en la personne de Jésus-Christ pour nous montrer comment vivre et aussi pour se donner. En plus, ça c'est un aspect que je ne suis pas prêt à lécher toute la poudre blanche, mais c'est ce qu'il a fait. Il a pris tout le péché, tout ce qui nous tuait sur lui. Il est mort à ma place, il est mort à votre place. Alors n'allez pas trop loin avec l'image des fourmis. C'est juste pour vous faire toucher du doigt ce que ça représente. L'idée qu'un Dieu tout-puissant, créateur des galaxies, des cieux, de la terre, de toutes les merveilles, des systèmes immunitaires, des yeux, du goût, de l'intelligence, de la mémoire, même si elle flanche des fois. Et ce Dieu, il se donne en son, la personne de son Fils, il meurt pour moi. Et moi je suis là, ouf, ouais, c'est bien, je sais, ouais, j'ai entendu parler de ça. Est-ce qu'on en parle autour de nous? Pour être bouleversant, il faut d'abord être bouleversé. Paul, il dit qu'il est devenu prédicateur. C'est le mot qui veut dire un trompettiste, on pourrait dire. Il le clame. Il en parle à tout bout de champ. Vous ne croirez pas, mais il y a une fourmi sur la table. Elle n'a pas été sauvée, celle-là. Il a été établi prédicateur. Dieu vous a établi prédicateur autour de vous. Vous n'avez pas besoin d'être un grand apôtre, de connaître l'hébreu, le grec et tout ce que vous voulez, la théologie systématique et pas systématique. Ce que vous savez de Dieu, vous pouvez le partager avec ceux qui vous entourent. Et il était apôtre, il est envoyé avec une autorité de Dieu. Et si vous êtes chrétien, vous avez cette autorité, elle ne vient pas de vous, elle vient de la parole de Dieu. Si je me permets de vous parler, de vous retenir tout ce temps, c'est pas parce que je crois que j'ai des choses intéressantes à vous dire, c'est parce que je vous lis la parole. Et si j'avais pas la parole, je n'aurais aucune espèce d'autorité à avoir sur vous, à prétendre d'avoir aucune autorité. L'autorité, elle n'est pas dans les personnes, elle est dans la parole de Dieu. Et il affirme, quand il dit « je dis la vérité, je ne mens pas, juré, craché, je suis vraiment prédicateur apôtre, je veux vous annoncer qu'il y a un seul Dieu, un seul médiateur qui s'est donné en rançon pour nous tous, pour tous les hommes. » Et il dit « je veux donc que les hommes prient en tout lieu. » Pas seulement quand il y a une réunion de prière, vous pouvez prier au travail, vous pouvez prier à la fac. Oh ah non, on nous a dit au GBU, c'est interdit. Vous pouvez prier en silence. Alors, il s'agit, je m'excuse auprès des GBUciens, la recommandation de ne pas prier, c'est parce que c'est dans les contrats des GBU avec les facultés. Mais rien ne vous empêche de prier en silence ou quand il n'y a personne qui n'est pas non-chrétien. En tout lieu, en tout moment, en élevant des mains pures. Alors, est-ce que mes mains sont pures? Ça ne veut pas dire qu'elles soient bien lavées, elles doivent être l'expression d'une vie guidée par Dieu où le péché n'a pas pris sa place. On peut pécher, mais on demande pardon à Dieu. Et là, ça soulève la question de la position. Les hommes sont toujours curieux de savoir qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui est recommandé. Chez les Juifs, et il y a plusieurs passages où l'on voit Salomon prier en élevant les mains, c'est un très beau geste, c'est un geste de dire qu'on élève vers quelque chose de plus grand que nous, vers quelque chose vers le haut, on peut lever les yeux vers le ciel. « Je lève les yeux vers les montagnes, car je sais d'où viendra mon aide. » On peut lever les yeux, on peut avoir les yeux ouverts quand on prie. Vous le saviez ? On peut prier à genoux. Pour certains, si on n'a pas l'habitude, c'est difficile parce que ça distrait. On pense pas tellement à Dieu, on pense plutôt à ses genoux. On dit « Ouh là là, ça fait mal, je vais bouger un peu. Ouh, c'est pas mieux. » On peut prier à genoux, on peut prier allongé, à plat ventre, sur le dos. Il n'y a pas une position, toutes les positions sont bonnes. Il y a même l'histoire d'un homme qui disait la façon dont il avait prié le mieux, c'était les pieds en l'air, la tête en bas, les bras coincés dans un puits. Il avait vraiment prié avec énergie ce jour-là. Sans colère ni contestation. Il n'y a pas une seule façon de prier, mais il ne doit pas y avoir de colère dans votre cœur. Pierre dit que si on s'est disputé avec son épouse, c'est comme nos prières ne vont pas dépasser le plafond de la maison, le plafond de la chambre. Ni contestation. Si on a un esprit ou alors, ce qui est pire, c'est si on prie pour reprendre les gens qui sont là dans la réunion de prière. Et Seigneur montre à certains qu'il faut arriver à l'heure aux réunions de prière. C'est pas l'esprit. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu. Je crois qu'il commence par les hommes parce qu'il sait que c'est plus difficile chez les hommes. Les femmes ont tendance naturellement à recourir à la prière. Peut-être parce qu'elles ont à mettre au monde des enfants. On en parlera avec Rimena quand elle reviendra. Les hommes doivent être les responsables dans leur maison. Est-ce que vous priez avec votre épouse, avec vos enfants ? Souvent, c'est les femmes qui prennent la responsabilité des choses spirituelles. Mais les hommes doivent prier, et verset 9, le début, de même aussi les femmes doivent prier. J'ai été repris par ce passage, parce qu'on a un peu laissé tomber une réunion de prière qu'on faisait depuis des années le mercredi soir. On s'est un peu découragé parce que on n'était pas nombreux. Et je pense qu'au mois de juin, je vais annoncer qu'on va reprendre une forme de réunion de prière, en plus de la réunion de prière des hommes le mardi matin. Pour qu'à l'église, il y ait de la prière qui monte constamment. Prenez des notes quand vous priez. Notez les sujets de prière. Quelques semaines, quelques mois, quelques années plus tard, vous pouvez relire ces sujets de prière et voir comment Dieu a exaucé. Élie et Sébastien se demandaient s'ils étaient faits l'un pour l'autre. Ils priaient pour savoir si c'était bien la personne avec qui ils devaient se marier. On voit le résultat. Et on pourrait multiplier les exemples. On a prié pour des locaux. On a prié pour des conversions. Paul nous dit, inspiré par l'Esprit Saint, je veux que vous priez. On a tendance à voir les armes du monde, la publicité, Internet. Je suis même sollicité, j'ai été resollicité par Google pour faire des publicités payantes. Ils nous donnent 75 €. Et ce qui fait que quand les gens chercheront une église, ils verront tout de suite à droite Calvary Chapel. On va peut-être essayer parce que c'est gratuit pour nous, voir si ça donne quelque chose, mais sérieusement, je crois que c'est pas la façon de faire grandir l'église. La façon de faire grandir l'église, c'est de prier ensemble. C'est de prier pour que le Seigneur nous fasse grandir dans la sainteté, nous fasse grandir dans le zèle de son service. On peut prier pour qu'il y ait plus de gens qui s'engagent dans l'église, ou on peut essayer de les forcer de mettre une place de parking pour le meilleur employé du mois. On peut faire les choses à la façon du monde, mais les armes de notre combat ne sont pas charnelles. Ça, c'est un autre passage de l'apôtre Paul, mais ce sont des armes divines pour faire tomber toutes les forteresses qui s'opposent à la connaissance de Dieu. On voit l'importance de la prière dans l'évangélisation ici. On prie pour les rois, pour les autorités, pour qu'ils nous fichent la paix, mais surtout on prie pour qu'ils connaissent la vérité et qu'ils soient sauvés. Et on doit avoir ce souci de prier pour tous les hommes, toutes les femmes, même nos ennemis, nous disait Jésus. Voilà, j'espère que nous puissions devenir davantage une maison de prière. Et ce qui est merveilleux, c'est que la prière, encore une fois, on peut la faire en tout lieu, pour n'importe qui se trouve n'importe où. Nancy me disait, je suis un peu inquiète pour Sébastien, il ne nous a pas écrit, je prie fort pour lui, et moi aussi je priais pour lui, et l'autre soir on a reçu un petit message sur Facebook, j'étais cambriolé, ou on m'a volé à Fort Lauderdale, et on n'en sait pas plus maintenant, mais ça nous conduit à prier. Je sais que James et Corinne prient pour quelqu'un qui se trouve en Inde, à des milliers de kilomètres. Est-ce que vous savez que ces prières sont aussi efficaces que si Thomas était là? J'aime bien cette illustration des anges qui se tirent les cheveux. Les anges ont des très beaux cheveux, il paraît. Quand ils nous voient agir, notamment en ce qui concerne la prière. Ils nous voient à table. Oh, viens voir, je crois qu'ils vont prier. Alléluia, ils vont demander la puissance de Dieu pour agir, pour être guidés dans leur action, pour répandre l'évangile, pour sauver les hommes et l'humanité tout entière. Attends, oh non, ils ont juste prié pour les spaghettis. C'est bien de prier pour remercier le Seigneur, mais notre vie de prière, si elle se limite à dire merci parce qu'il y a un bon steak en face de nous, les anges, ils disent, mais ils n'ont rien compris. Dieu nous a donné une arme, une puissance qui fait appel à sa puissance. On a cette puissance de pouvoir faire appel à sa puissance et on la néglige tellement. Nous devons persévérer dans la prière, dans les demandes pour nos besoins, dans les prières où on l'adore, dans les prières où on est si proche de lui qu'on peut glisser un mot pour un ami, pour une personne qui nous est chère, et surtout pour le remercier. La vie est précieuse. La vie éternelle est encore plus précieuse, nous dit Jésus. Et nous devons prier pour que les hommes qui vivent cette vie connaissent cette vie éternelle. Amen.